ça vaut le détour.
Bonjour, bienvenue à Ça vaut le détour, édition du mardi 10 mai 2016. Bonjour, ici Maxime Despomerleau, toujours avec une petite voix enrouée en ce mardi midi. Bienvenue à Ça vaut le détour. Je vous rappelle que nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis midi. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter, @canal_m. Vous pouvez en tout temps nous soumettre des sujets qui vous touchent, commenter sur l'actualité ou réagir aux propos de nos invités. Depuis quelques semaines, Canal M vous présente une série d'entrevues en route vers Rio pour attiser la flamme des Jeux paralympiques d'été qui auront lieu à Rio de Janeiro en septembre 2016. Cette semaine, on vous présente un portrait de l'athlète Marco Di Spaltro, joueur de boccia. Porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux parapanaméricains de 2015, Marco Di Spaltro est une légende du parasport. On lui parle à 12h45. Pour leur dernière chronique, l'ACPEV, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, on parle de leur service de soutien et d'entraide dont un nouveau groupe vient de se former en Outaouais. Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien de l'ACPEV, sera avec nous, ainsi que Martine Fontaine, participante au groupe d'entraide de Longueuil. On va aussi faire un tour du côté des Laurentides avec la coop SOR Solidarité Répit Entraide, dont l'objectif est de trouver des solutions permanentes pour contrer l'épuisement des proches aidants de la MRC des Pays d'en haut. On parle avec la coordonnatrice de l'organisme, Mme Claire Lefebvre. Mais tout d'abord, on commence avec notre coup de chapeau de la semaine. Au Québec, plus de 4 000 jeunes entre 5 et 25 ans et 17 000 adultes entre 25 et et 65 ans vivent avec une incapacité grave de mobilité et d'agilité. Leurs besoins en autonomie sont criants, d'autant plus que les ressources peinent souvent à les combler. Cette semaine, notre coup de chapeau va à la Fondation Le Pont vers l'autonomie, qui participe à l'inclusion sociale des personnes handicapées. J'accueille dans nos studios le fondateur et directeur général, Samuel Florent Beauchemin. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. On sait que vous êtes de passage à Montréal ce matin. Vous quittez tout de suite après l'entrevue, donc on se considère très chanceux. C'est pas le premier prix, en fait, qu'on vous offre aujourd'hui. On vous lance notre coup de chapeau, ce qu'on fait une fois par semaine à un organisme, une initiative qu'on souhaite mettre en lumière. Vous avez reçu le prix Coup de cœur 2016 du Gala Reconnaissance Tête d'affiche Radio-Canada Le Nouvelliste le 4 mai dernier. C'est une belle reconnaissance, ça, pour le travail que vous faites.
Inattendu, en plus. Oui, ça fait chaud au cœur.
Puis comment est-ce que vous avez vécu ça, ce moment-là qui s'est déroulé très récemment?
C'était beaucoup d'émotions. Je dirais que je m'attendais vraiment pas à ça. Sauf que la première pensée que j'ai eue, c'était à mon frère qui m'a inspiré dans cette aventure-là. Donc, ce prix-là, cette nomination-là, je la prends avec beaucoup d'humilité, mais je la partage aussi avec mon frère et mon père.
Justement, vous parlez de votre frère parce qu'en fait, Samuel, avant la création de la fondation Le Pont vers l'autonomie, il y a une histoire de famille.
Oui. C'est mon frère, en fait, qui avait découvert un bras robotique qui est fabriqué à Boisbriand par la compagnie Kinova. C'est le bras Jaco. Il est revenu à la maison, puis il m'a montré une vidéo de ce que ça faisait. Puis là, ses yeux illuminés ont illuminé les miens. Donc, je lui ai regardé, j'ai dit, bon, on va t'en acheter un. Puis c'est parti d'une idée farfelue. Puis on continue dans cette option.
Dans cette voie-là. Justement, cette mission, on parle d'acheter un bras robotisé. Je rappelle à nos auditeurs qu'on avait reçu en entrevue la compagnie Kinova le 22 mars dernier. Mais j'aimerais qu'on rappelle d'abord à nos auditeurs, qu'est-ce que ça fait un bras Kinova? Pourquoi votre frère en voulait un? Et pourquoi ça a illuminé son regard et sa vie?
Mon frère était atteint d'une maladie dégénérative, la dystrophie musculaire de Duchenne, évolutive. Donc, il a mangé toute sa vie par lui-même, il faisait beaucoup de choses par lui-même. Puis, à un certain moment donné, il était incapable, sa maladie l'avait emprisonné dans son corps. Donc, ce bras-là, justement, lui permettait de manger seul, de boire seul, de récupérer. Il aimait beaucoup la lecture, il aimait beaucoup le Xbox. Donc, d'aller récupérer sa manette seule, de ramasser des objets par terre, pas toujours déranger les autres. Il était beaucoup, je te dirais, il voulait rarement déranger les autres ou sinon en cas de besoin majeur. Donc, ce bras-là, c'était pour lui une belle avancée.
Toujours dans cette idée d'autonomie à atteindre, comment est-ce que, en quelle année vous avez démarré la fondation? Quel soutien vous êtes allé chercher pour ça?
En juin 2013, on a créé la fondation officiellement. En fait, c'est que moi, on avait reçu un héritage de notre père défunt. Puis moi, j'ai décidé de vivre sur ça pour justement créer une fondation qui allait pouvoir ensuite faire l'achat de bras robotisés. Aucune autre fondation offre ça au Québec et au Canada. Donc, on est allé, on a organisé beaucoup d'événements. Ensuite de ça, on a rencontré des donateurs, des commanditaires, et puis de fil en aiguille, ça a grandi. J'ai été chanceux, j'ai été chercher des outils à l'université avec le programme de gestion philanthropique. Donc, ensuite de ça m'a permis de développer des façons de financement pour assurer une certaine pérennité à l'organisation, puis pour qu'on puisse assurer une croissance continue de la fondation.
Justement, on va le dire, votre frère est décédé
Oui.
aussi. Par contre, il a pu bénéficier un peu du bras robotisé, très, très peu.
Presque. Mais en fait, on l'a installé, puis il y a eu un problème technologique de comptabilité
Compatibilité?
entre le bras robotisé et la chaise roulante. Donc, non, on a fait des tests. Et puis après, c'est allé à l'hôpital. Puis c'est ça, là, il a fait une infection pulmonaire. Puis finalement, il n'en est jamais sorti. Mais son bras était légué, donc personne suivant son décès. Puis
Justement, c'est son aventure à lui, c'est terminé, mais on continue l'aventure de la Fondation et aussi l'idée de rendre une vie plus autonome à d'autres personnes. Jusqu'à maintenant, vous avez déjà remis des bras à 5 personnes et vous visez d'en remettre 6 autres d'ici la fin de l'année.
la fin de l'été.
La fin de l'été? Oh,
Ouais,
OK,
ouais, ouais.
on...
Enfin, la campagne de financement progresse très bien. Donc, s'il y a des gens qui veulent faire des dons, c'est sur soyezlepont.com. Donc, c'est une campagne de financement en ligne. Donc, on peut donner pour la région qu'on veut avec les bénéficiaires qu'on souhaite aider ou pour la campagne en général. Là, pour,
D'après vous, il y a combien de personnes au Québec qui ont besoin d'un bras comme celui que votre frère avait besoin?
C'est difficile à estimer. Il y a beaucoup de personnes qui. Les données de Statistique Canada sont quand même difficiles à déchiffrer. Mais on a beaucoup de demandes au niveau des centres de réadaptation. Ce que Kinova disait aussi, c'est que ça serait approximativement 1 000 bras robotiques qu'il y aurait à acheter. Donc, moi, c'est ma mission de vie. J'aimerais bien qu'avant de quitter, j'ai fait l'achat de la flotte. Nécessaire pour aider les personnes qui en ont besoin au Québec, là.
Puis, vous avez débuté dans votre région, les Bois-Francs, mais vous œuvrez maintenant à l'échelle du Québec.
Exactement. Donc, on est dans 7 autres villes.
Est-ce que vous rencontrez les personnes qui font, qui vous soumettent, j'imagine, une demande? Il doit y avoir une liste d'attente.
C'est ça.
Vous avez géré ça, surtout si vous êtes, comme vous le dites, le seul organisme qui offre ça, au Québec et au Canada.
Absolument. Cette année, c'était un projet pilote à l'échelle du Québec. On avait reçu plusieurs demandes. Il y en a 8 de ceux-là qui voulaient nous aider dans le financement, tout ça. Donc, on est allé de l'avant avec ces campagnes-là. On a créé un comité de sélection indépendant. Donc, maintenant, comme pour la prochaine année, le comité de sélection va nous soumettre les candidatures qui seront retenues pour aller de l'avant pour une campagne de financement et éventuellement avoir un bras robotisé.
Justement, en fait, tous les coûts reliés à ce bras robotisé, Jaco, de la compagnie Kinova, ça représente environ 50 000 $. C'est un montant qui est extrêmement élevé pour des personnes en situation de handicap, qui sont souvent dans des positions très vulnérables, parfois très pauvres aussi. vous ne vous contentez pas de seulement acheter le bras, c'est aussi la formation, c'est de l'entretien, c'est un service tout inclus que vous offrez.
Exactement, comme on le sait, c'est des personnes qui sont très vulnérables, qui sont souvent en situation de pauvreté. Donc, si on leur laisse le bras robotisé, ben, il y a bien des chances que dans un avenir à moyen terme, le bras robotisé soit dans le placard à cause qu'il y a des réparations, des mises à jour à faire et tout ça, puis qu'on n'a pas le financement nécessaire pour le faire. Donc, on a un partenariat très intéressant avec la compagnie Kinova qui nous permet d'avoir un meilleur prix au niveau de l'achat et puis de pouvoir ramasser de l'argent pour justement s'assurer que le service sera offert ensuite. Pour le bras robotisé.
Justement, on parle de fonds, on parle de cette importance de pouvoir ramasser du financement, des dons. Comment est-ce que vous arrivez à récolter des montants aussi importants?
Il y a plusieurs stratégies. On a une vente de fromage qui revient annuellement. L'année prochaine, on va être avec cette campagne-là à l'échelle du Québec. On a des dons en ligne, on a des dons majeurs qu'on va chercher, des dons au niveau des fondations. On va chercher vraiment une panoplie de donateurs, de diversification des fonds, pour pas juste miser, exemple, sur les donateurs grand public ou sur des événements. Les événements, on est chanceux, on a beaucoup d'événements organisés par différentes personnes qui veulent s'impliquer, donc des spectacles de musique, des défis 24 heures de hockey avec les policiers de la Sûreté du Québec dans notre région. Plusieurs initiatives comme ça qu'on est vraiment chanceux de pouvoir compter avec nous là, pour accomplir notre mission.
Samuel Florent Beauchemin, ça fait 3 ans que vous travaillez justement à la mise sur pied, à étendre cette fondation, un pont vers l'autonomie. Avez-vous remarqué des changements dans la population envers les gens que vous rencontrez sur cette perception des besoins des personnes en situation de handicap? Est-ce que vous voyez que vous contribuez à faire changer les perceptions?
Assurément, surtout dans notre région, c'est comme nous, à toutes les fois qu'on participe, par exemple, à des défis 24 heures, ben notre goaler, ça va être une personne à mobilité réduite, on lui fait mettre des pads, puis une personne avec la paralysie cérébrale, il vient jouer avec nous. Tournoi de hockey, c'est la même chose. Donc, l'inclusion de ces personnes-là est vraiment remarquable, puis ça, on sensibilise les gens directement, puis au fond, souvent, c'est des perceptions, puis finalement, ils se rendent compte que c'est juste une différence. C'est pas, tu sais, une personne, c'est pas un handicapé, c'est une personne avant d'être une personne, tu sais, avant d'être un handicapé. Puis, justement, ça les met en contexte. Et puis, oui, on voit que de plus en plus, mais on peut pas changer tout le monde en même temps, mais c'est une personne à la fois.
Une personne à la fois, c'est comme ça qu'il faut voir ça. Il y a des pays où le bras robotisé, Jaco, est remboursé par le système de santé. C'est pas le cas au Québec actuellement. Pensez-vous inclure dans le développement de votre fondation un volet sensibilisation, justement, ou peut-être aller parler à des instances gouvernementales, à des institutions, pour ramener cette importance de l'autonomie et donc de cet outil technologique qui peut changer les vies des gens?
Kinova a déjà fait des approches, ont déjà tenté des différentes options. Un gros, gros, gros travail à faire au niveau des études, des recherches, au niveau de prouver que ça enlève des heures en soutien à domicile. Mais là, en ce moment, qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est que si on va chercher des heures en soutien à domicile, il va couper des heures à domicile aux bénéficiaires, mais en fait, le bénéficiaire a déjà un manque à gagner de presque plus que la moitié en aide à domicile. Donc, lui, il considère dans ses besoins qu'il y a là. Donc, on se retrouve à couper des heures pour avoir un bras robotisé, mais c'est des heures essentielles. T'sais, on peut pas laver quelqu'un avec un bras robotisé. On peut.
Exactement, c'est ça convient, ça remplit pas les mêmes fonctions.
Ça va vraiment soulager les proches aidants dans leur quotidien, mais ça va quand même prendre un travail d'un préposé qui va venir laver, préparer les repas, puis tout ça, là.
Donc il y a encore du chemin à faire de ce
Encore du chemin
côté-là.
à faire. C'est sûr que nous, de plus en plus, le gouvernement, c'est des partenariats, c'est va en chercher une partie, on va aller chercher une partie. 1 000 bras robotisés fois 50 000, on s'entend que c'est beaucoup de millions. Donc, c'est pas impossible selon moi. Mais c'est dans notre stratégie à plus long terme.
À plus long terme, on va surveiller ça de près. Félicitations pour votre belle initiative, pour la réussite jusqu'à maintenant
Merci
de la
beaucoup.
mission de votre fondation. Je rappelle que vous êtes Samuel Florent-Beauchemin, fondateur et directeur général de la fondation Le Pont vers l'autonomie et notre coup de chapeau de la semaine à Canal M. Merci d'avoir été là.
Merci beaucoup.
J'ai regardé autour de moi, qui sont tous ces gens que je ne reconnais pas. J'ai écouté, ils parlaient de quoi. J'ai demandé qu'attendez-vous de moi.
Michel Haut, des gens comme moi tirés de son album L'amour violet, une parution de 2016. Cette belle voix douce de Michel Haut qu'on a très hâte de voir en spectacle dans les prochaines semaines. On en parlait tout juste avec mon précédent invité, Samuel Florent Beauchemin, de cette importance de donner l'autonomie aux personnes en situation de handicap, qui aident à soulager les tâches quotidiennes des proches aidants. Et il y a aussi différents organismes qui s'emploient à pouvoir offrir du soutien aux proches aidants, dont la coopérative de solidarité SOR pour Solidarité Répit Entraide. Je parle avec la coordonnatrice de l'organisme, Madame Claire Lefebvre. Bonjour.
Oui, bonjour.
Madame Lefebvre, tout d'abord, bon, vous êtes située dans la MRC des Pays d'en haut.
Oui.
Comment est née la coopérative?
La coopérative est née à partir du fait que moi-même, j'étais proche aidante et il n'y avait pas suffisamment de ressources dans l'environnement. Et lorsque mes parents sont décédés et ont été hébergés, j'ai décidé de partir là une coopérative pour donner plus de services aux proches aidants comme tel.
Et donc, c'est votre mission, c'est vraiment d'accompagner les proches aidants. Est-ce qu'on parle de personnes plutôt âgées, comme c'était votre cas, ou on parle vraiment de tout type d'accompagnants?
La coopérative est vraiment pour améliorer les conditions de vie des proches aidants d'aînés en leur offrant différentes formes de répit. Et on existe depuis le mois d'août 2006, ça fait qu'on va bientôt fêter nos 10 ans.
Bientôt 10 ans, ça
oui.
veut dire beaucoup de gens que vous avez soutenus à travers les années.
Oui.
Quel est votre territoire desservi, plus précisément?
Présentement, pays d'en haut, au sud, c'est Sainte-Anne-des-Lacs, au nord, Sainte-Adèle. À l'ouest, on va jusqu'au lac des 16 îles en passant par Saint-Adolphe. Et à l'ouest, Sainte-Adèle, aller jusqu'à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et l'Estérel.
Pourquoi avoir opté pour le modèle coopératif?
C'est vraiment parce qu'on trouvait que ça représentait, c'est une coopérative de solidarité, hein, fait que ça allait beaucoup dans le sens de nos valeurs, où on voulait développer de la solidarité et de l'entraide entre les proches aidants et par rapport aux proches aidants.
Vous offrez des services de répit. Comment ça se manifeste? Est-ce qu'il y a différents services de répit, différents types de séjours pour le proche aidant?
Oui, il y a d'abord des répits individuels qui se font à domicile, le jour, le soir, la nuit, la fin de semaine. Il y a des répits collectifs où l'aidé vient avec d'autres aidés pour une journée d'atelier de stimulation où on met l'accent sur les capacités qui leur restent et essayer qu'ils les conservent le plus longtemps possible. Donc, par conséquent, ça donne une journée de répit complète aux proches aidants. On a du répit social qui sont des activités, des sorties aidant aider, mais accompagné d'éducateurs spécialisés, de bénévoles qui s'occupent des aidés sur place et pour permettre une sortie en couple qu'on n'est pas toujours capable de faire quand on est seul avec notre proche aidé. Là. On a aussi des formules de camp répit, mais ça, c'est vraiment, c'est comme un 3 jours de vacances, les aidants avec les aidés, où on prend en charge toute la journée les aidés. Mais sur place, après, l'aidant arrive pour le souper et la soirée qui permet de sécuriser l'aidé. Mais ça dépend vraiment des subventions spécifiques qu'on reçoit parce que c'est quand même là des coûts assez importants parce que ça demande des intervenants puis des ressources là importantes. Et avec ça, on a tout le soutien individuel, psychosocial où chaque proche aidant, on a un service d'accueil, d'information et d'écoute par rapport à toutes les phases qu'il vit dans sa trajectoire de proche aidant.
Tout à fait, parce que les situations des personnes sont appelées à évoluer, donc
oui.
on ne rencontre pas toujours les mêmes besoins. La coopérative sert aussi à contrer l'isolement. Vos services s'adressent aux membres. Comment on fait pour devenir membre et quel membership on peut avoir chez vous?
OK. Tout le monde peut devenir membre de la coopérative. Le premier statut de membre, c'est des membres participants, donc des proches aidants et des bénévoles. Le deuxième statut de membre, c'est des membres soutien. Fait qu'il y a le soutien individuel. Fait que souvent, c'est les enfants, les familles, des militants qui trouvent que ce qu'on fait a intérêt à être soutenu. Et on a le soutien corporatif où là, c'est plus des entreprises, des compagnies qui nous soutiennent. Et on a le statut de membre travailleur. Parce que les travailleurs font partie prenante aussi de la gestion collective des décisions, parce que c'est eux qui sont sur le terrain continuellement, donc ils apportent leur expertise par rapport à l'ensemble des décisions qu'on prend, par rapport aux activités, aux orientations de l'organisme.
Madame Lefebvre, vous faites également la promotion de la cause des aidants auprès des services de santé, des pouvoirs publics et de la population en général pour les sensibiliser à leur réalité. Pouvez-vous nous donner des exemples de démarches de sensibilisation que vous avez faites?
Bien, annuellement, on fait le tour. On a 10 municipalités dans la MRC des Pays d'en haut. Fait qu'annuellement, deux fois par année, on fait le tour de tous les organismes, les clubs d'âge d'or, les santé amicales, pour expliquer c'est quoi un proche aidant. Parce que souvent, les gens sont proches aidants, mais ne se voient pas, ils s'identifient pas comme un proche aidant. Ils disent, ben c'est normal, je m'occupe de mon mari qui est malade, tu sais, mais quand il y a une limite, un moment donné, où l'engagement devient plus important, et là, on a besoin d'informations et d'aide, et surtout de répit. On fait beaucoup aussi la sensibilisation auprès de tous les organismes communautaires et qui, eux, nous réfèrent des gens là, quand ils voient qu'ils sont proches aidants. Et aussi le C3S, là, maintenant CISS, là, qui nous réfère des gens pour du répit, mais avec qui aussi on a des ententes de services spécifiques là, pour envoyer des gens à la maison là, quand eux n'ont pas suffisamment d'auxiliaires là, pour offrir ce service-là.
Mm-hmm. Et savez-vous s'il existe d'autres coopératives comme la vôtre au Québec?
Des coopératives exactement comme la nôtre, mises sur pied spécifiquement pour les proches aidants et pour leur offrir du répit, à ce que je sache, il n'y en existe pas. Mais il y a des organismes, soit d'action bénévole, qui offrent certains services aux proches aidants, des services de transport médical, tout ça, mais il n'y en a pas au niveau spécifique du répit. Mais il y a des organismes qui commencent à nous appeler pour nous demander comment on fonctionne, nous demander des conseils et qui réfléchissent là, à essayer de mettre une structure similaire là, dans leur région.
Votre modèle est inspirant pour d'autres régions.
Oui, entre autres, là, on a eu des appels là, dans le bas du fleuve, là, puis dans la région de Québec, là, pour savoir comment on fonctionnait, puis là, en Abitibi aussi. Fait que des fois, ils prennent pas exactement la même formule, mais ils s'en inspirent, puis ils l'adaptent à leur région.
En terminant, Madame Lefebvre, rapidement, si on veut avoir plus d'informations sur vos services, comment on vous contacte?
Vous pouvez nous contacter au 450-224-2657 ou par notre site internet sore.cgeocab.ca qui est notre adresse courriel et pour notre site internet www.coopfort.org.
Merci beaucoup. On va mettre le lien vers votre site web sur notre page d'émission. Claire Lefebvre, vous êtes coordonnatrice à la coopérative de solidarité proche aidant SOR, coopérative SOR. Merci beaucoup d'aider ces personnes à pouvoir aider d'autres gens. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Je vous remercie beaucoup. Bonjour.
Sur les ondes du canal M, vous écoutez Ça vaut le détour avec Maxime D. Pomerleau.
Toujours à Ça vaut le détour, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux avec le mot-clic CVLD ou sur Twitter, @canal_M. Et j'accueille en studio Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels. L'ACPEV. Bonjour Geneviève.
Bonjour Maxime.
Donc, c'est notre dernière chronique mensuelle. On est déjà dans notre dernier tour de table. Et on a aussi une invitée au téléphone, Mme Martine Fontaine, membre de l'ACPEV. Bonjour Mme Fontaine.
Bonjour.
Merci de vous joindre à nous aujourd'hui.
Ça me fait vraiment plaisir.
D'abord, Geneviève, pour ce dernier sujet de chronique de l'ACPEV, on va parler des groupes de soutien. Des groupes d'entraide. C'est quelque chose que l'organisme met sur pied dans plusieurs régions du Québec et qui apporte un énorme soutien aux membres.
Oui, exactement. Puis je spécifie groupe d'entraide parce que c'est vraiment entre parents. Donc, c'est pas Une fois que le groupe est autonome, ils se réunissent vraiment entre parents. C'est certain qu'au départ, nous, la CPEV, on démarre le groupe, donc on offre un soutien au départ. Donc, on a une personne qui accompagne le groupe dans la première année, 4 à 5 rencontres dans l'année. Puis, cette personne-là va vraiment animer les rencontres, leur parler du volet plus confidentialité, communication dans le groupe, amener des sujets par rapport à la réalité parentale. Donc, pour animer plus les échanges dans la première année, puis pour soutenir, là, vraiment gérer, organiser, coordonner les rencontres et tout ça. La CPEV, nous, on est présent pour les parents dans toute l'évolution du groupe. Donc, on a démarré un groupe en 2004 à Québec, une douzaine de parents qui se sont réunis, qui ont évolué à travers les années. On a le groupe de Longueuil aussi, qui sont plusieurs parents, une douzaine, qui se réunissent depuis 2007. Dont Martine fait partie. Mm-hmm. Donc, elle va pouvoir vous en parler un petit peu plus tantôt. Puis, on a démarré dans la dernière année, même, je dirais, il y a 2 ans, là, il y a le groupe des Laurentides qui regroupe aussi à peu près 9 familles. Donc, ce groupe-là est plus ouvert, je dirais. On peut toujours ajouter des familles. Donc, il y a une possibilité d'ajouter de 2 familles, entre autres, qui risquent de s'ajouter dans la prochaine année parce que ce groupe-là est toujours pas en formation, mais on peut toujours le bonifier. Puis, on a démarré dernièrement un groupe en Outaouais. Donc, ce groupe-là est vraiment en démarrage. On a fait une rencontre, une première rencontre d'information. Puis, le groupe s'est réuni pour la première fois. Il était 5 parents seulement. Donc, c'est sûr, il y a une question de disponibilité, de gardiennage, parce qu'on n'offre pas, malheureusement, le service de halte garderie de l'ACPEV dans le cadre des groupes. Donc, c'est vraiment, on va soutenir le groupe pour trouver un local. S'ils préfèrent faire ça dans un local qui va être loué ou emprunté à un organisme partenaire. Mais il y a toujours possibilité de faire ça à domicile quand les parents se connaissent plus puis sont plus à l'aise, ou de faire ça dans une salle privée, dans un restaurant, comme le groupe de Québec font régulièrement. Le groupe de Longueuil aussi le font à l'occasion. Donc, c'est une formule qui fonctionne bien.
Mm-hmm. Geneviève Genet, est-ce que ça prend du temps à mettre sur pied un groupe d'entraide comme ce qu'on parle?
Oui, mais comme celui de l'Outaouais qu'on est en train de démarrer, on en parle déjà depuis plus qu'une année. Il y avait de l'intérêt en Outaouais déjà avant ça. Donc, on en a parlé un petit peu, on a regardé les possibilités, puis le temps de mettre sur pied. C'est sûr qu'il faut le prévoir aussi parce qu'il y a certains coûts pour l'association, si on a loué un local, si on a envoyé une personne pour faire la formation, ces choses-là. C'est des choses à penser, puis ça prend du temps aussi qu'il faut penser à organiser, parce que c'est nous, l'ACPEV et la formatrice qui va coordonner tout ça la première année. Ça demande un peu plus de temps, donc il faut le rentrer dans le cadre de nos activités.
Madame Fontaine, vous faites partie du groupe d'entraide de Longueuil.
Oui.
Ça fait combien de temps?
Depuis sa création en 2007.
Donc, bientôt, ça fait 9 ans, donc vous êtes une des premières membres.
Oui, c'est ça. On en fait partie là, depuis. Ça va faire 9 ans, en fait, à l'automne prochain. Et puis, on est pas mal les mêmes personnes là, qui se côtoient là, depuis toutes ces années-là. Il y a certaines personnes qui sont venues, il y en a qui sont reparties. Mais à la base, on est les 12 mêmes personnes. On est un beau groupe.
Vous avez justement fait un hommage à votre groupe d'entraide dans la dernière publication de la revue de la CPEV. J'aimerais vous entendre sur votre expérience, justement, sur qu'est-ce que ce groupe d'entraide vous a apporté en tant que parent d'un enfant handicapé visuel.
Beaucoup de soutien au départ, hein, parce que quand on reçoit un diagnostic, on est un peu dans le néant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On pense à l'école qui s'en vient. Juste avant ça aussi, il y avait la garderie, comment... on se pose des questions comment notre enfant va être reçu dans les milieux de garde, à l'école, comment ça va se passer, les adaptations qui pourrait y avoir pour lui. Alors, on discute des plans d'intervention, on a l'expérience des autres, hein, on se base beaucoup sur l'expérience que les autres ont vécue. Pour les plans d'intervention, les méthodes d'enseignement aussi qui peuvent un petit peu changer. Moi, mon fils a commencé son primaire à l'école de quartier jusqu'à la deuxième année où là, c'était plus vraiment possible pour lui. Alors, il a dû être transféré à l'école de Jacques Ouellette, qui est l'école spécialisée à Longueuil. Mm-hmm. Et puis, il y a quelques parents dont l'enfant fréquente cette école-là. Alors, c'est... de savoir comment ça s'est passé pour eux quand leur enfant a commencé à fréquenter cette école-là, comment ça fonctionne aussi à l'école de quartier, au primaire, au secondaire aussi. Au secondaire, les enfants se promènent dans l'école entre chaque cours. Alors, on discute de la façon comment transporter tout le matériel. Il y a des enfants qui fonctionnent avec la télévisionneuse. Il y en a qui sont au braille. Alors, c'est plein de choses comme ça dont on parle. On va aussi parler des activités parascolaires aussi. Des fois, c'est un peu plus difficile, comme pour les sports, d'adapter pour les enfants. On essaie de trouver des façons de proposer aux enseignants des façons de pouvoir adapter tout ça.
Vous parlez de vos enfants, finalement. Vous parlez des situations de vos enfants. Vous les comparez, vous trouvez des trucs pour améliorer le quotidien de chacun.
C'est ça, c'est en plein ça. Ça va aller même juste, je me souviens, moi, une fois, mon fils allait quand même bien au début. Sa vision était quand même assez acceptable, là, mais elle s'est beaucoup dégradée dernièrement. Et puis, bon, juste avant qu'on commence à parler du transfert à l'école spécialisée, il y a une maman, à un moment donné, dans une rencontre, elle avait apporté le sac d'école de sa fille qui était pratiquement non-voyante, puis elle nous a montré tout ce qu'il contenait, à partir des crayons, les règles en gros caractères, les rapporteurs d'angle. Ça donne vraiment une bonne idée de ce qu'on peut se procurer pour aider nos enfants, puis ça nous permet aussi de donner des outils aux enseignants aussi pour qu'ils puissent mieux se repérer là-dedans aussi.
Tout à fait. On a parlé beaucoup, vous le décrivez très bien, tout ce qui engendre, tout ce qui arrive dans le quotidien de votre fils, entre autres, qui vit avec un glaucome congénital bilatéral.
C'est ça son
diagnostic.
Oui.
On voit qu'il y a eu beaucoup l'accent sur l'intégration scolaire, mais je suppose que le groupe d'entraide vous aide aussi à briser l'isolement, à aller chercher du soutien des autres parents aussi. On peut laisser parfois de côté les technicalités scolaires et parler de son vécu.
Oui, tout à fait. Moi, je suis en contact constant avec mon groupe d'entraide. Je leur ai encore écrit hier soir. Parce que c'est important, le soutien. Il y a des choses que, en tout cas pour ma part, que je peux pas garder ça pour moi. Il y en a qui se font plus discrets, c'est correct aussi, mais c'est important d'en parler, puis d'aller chercher de l'aide quand on a besoin. Faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide psychologique quand on en a besoin.
Geneviève Genet, qu'est-ce qui détermine en fait qu'il va y avoir un groupe d'entraide qui va se former dans une région? Il y en a quelques-uns en activité. Est-ce que ce sont des demandes des membres qui déterminent ça? Comment est-ce que ça se passe?
Principalement, je dirais, c'est ça, c'est la demande des parents qui sont membres. C'est certain, si on a des parents membres de l'ACPEV qui ont des besoins qui sont non répondus, qui souhaitent échanger avec d'autres parents. C'est certain qu'il y a du jumelage qui se fait à l'intérieur de l'ACPEV, que les parents, un à un, peuvent s'échanger par téléphone, par courriel, aller au restaurant, dans nos activités familiales, nos rencontres provinciales, ils se rencontrent. Mais si au-delà de ça, ils ont un besoin de se réunir 4 à 5 fois par année, vraiment avec un groupe de différentes familles, différents parents qui vivent des situations semblables ou en même temps différentes. Des fois, ça l'aide de voir des situations différentes à la nôtre ou de voir qu'on n'est pas seul dans tout ça. Donc, oui, ça va venir une demande des parents, mais des fois, c'est des demandes d'intervenants, d'organismes aussi qui voient la situation dans leur région puis qui nous disent, bien, on sent qu'il y a des grands besoins de la part des parents qui sont peut-être non répondus. Est-ce que vous pouvez nous aider dans ça, nous soutenir? Puis c'est comme ça qu'en Outaouais, on a démarré un groupe d'entraide pour les parents.
Martine Fontaine, est-ce que vous voyez votre groupe, on parle de 4 à 5 fois par année, est-ce que vous le voyez ce nombre de fois-là ou plus fréquemment ou moins fréquemment?
C'est à peu près ça, environ 3 fois, 4 fois par année. On a, je dirais, environ 3 rencontres là, de parents. Puis on se garde toujours durant l'été une journée pour une rencontre familiale où là, on invite tous les enfants sont présents. On fait un gros barbecue avec la piscine, tout ça. Ça permet aux enfants de se créer un réseau aussi.
Tout à fait. Mm-hmm.
Même pour la fratrie, on inclut la fratrie aussi, les enfants, les frères, les sœurs qui n'ont pas de déficience visuelle sont aussi inclus dans les activités. Ils se font des amis au sein du groupe aussi.
Tout à fait, parce que justement, ces rencontres du groupe d'entraide, elles sont pour les parents. C'est votre moment à vous.
C'est ça. Oui, oui, oui.
Et est-ce que, en terminant, Martine Fontaine, quel conseil vous donneriez à des parents qui se demandent si un groupe d'entraide, c'est pour eux? Qui se demandent si c'est un lieu où ils pourraient échanger ou peut-être qu'ils voudraient en mettre un sur pied dans leur propre région, dans leur propre ville?
Moi, je leur dis d'y aller là à fond la caisse. Je pourrais vous dire, moi-même, au début, j'étais pas convaincue que j'avais vraiment ma place là parce que mon fils avait vraiment des besoins très minimes comparés à ce que les autres enfants, les autres parents avaient. Mais on sait jamais quand est-ce que ça peut se dégrader. Puis tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience venant des autres, ben quand sa condition s'est détériorée, on était bien préparés. Alors, moi, je leur dis, allez-y. C'est vraiment, c'est mon souhait qu'il y ait le plus de groupes d'entraide qui se créent au Québec. Dans chaque région, il devrait y en avoir au moins une. C'est vraiment, je pense que c'est un service essentiel.
Geneviève Genet, en terminant, si on veut créer un groupe d'entraide, si on veut l'implanter, l'initiative dans notre région, comment on vous contacte?
Contacter l'association. Vous pouvez me contacter sans frais au 1-888-849-8729 ou au 450-465-7225 ou visiter notre site Internet, le www.aqpehv.qc.ca.
Merci beaucoup, Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV. C'était notre dernière chronique à Canal M. Ça vaut le détour, du moins. Oui. Pas à Canal M encore. On va sans doute vous recevoir dans les prochaines saisons. Merci d'avoir été avec nous. Merci Martine Fontaine, membre de l'ACPEV, de nous avoir partagé votre témoignage, de faire partie de ce groupe d'entraide de Longueuil. Merci, mesdames.
Merci, Maxime.
Ça fait plaisir. We'll be right back.
Simon Kingsbury avec sa pièce Chandail, tirée de son dernier album Pêcher rien. Un petit quelque chose dans le grain de voix qui me rappelle Philip Brac, où on discutait peut-être côté la guitare de Strokes. On termine notre émission avec notre segment En route vers Rio. Chaque semaine, on vous présente une série d'entrevues avec des acteurs importants dans justement la délégation de ces Jeux paralympiques d'été qui auront lieu à Rio de Janeiro au Brésil en septembre 2016. Et on vous fait, aujourd'hui, on vous présente un athlète, Marco Di Spaltro, joueur émérite de Boccia. Bonjour.
Allô Maxime, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Top shape.
Top shape. Justement, on disait que vous venez tout juste de remporter l'argent au 33e défi sportif Altergo. Félicitations.
Merci beaucoup. Ça, c'est avec ma partenaire Alison Levine, puis aussi avec Juliane Chobanou.
C'est pas votre première récompense. Vous avez quand même un bon parcours d'athlète, plusieurs médailles dans ce sport, mais c'est pas votre premier sport paralympique. Vous avez une bonne carrière d'athlète derrière vous.
Ouais, moi, j'ai commencé dans mon odyssée sportive en fauteuil roulant en 1993 avec le rugby en fauteuil roulant. Puis, tu sais, dans mon cas, moi, c'est une maladie dégénérative. Fait que plus que je vieillis, plus que j'ai de la difficulté. Fait que souvent, les gens vont dire, ah, ça doit être terrible, ça. Mais pour moi, écoute, ça m'a donné trois défis complètement différents dans ma carrière. Tu sais, j'ai passé du rugby en fauteuil roulant, qui est un sport très physique, au tennis, qui est un sport quand même physique, mais il n'y a pas de contact. Puis ensuite de ça, ben au boccia maintenant. Puis entre tout ça, ben entre ma carrière de rugby puis de tennis, j'ai pris comme un sabbatique de 8 ans pour coacher. Mm-hmm. Fait que ça remplit bien des années, tout ça.
On touche à plusieurs facettes du sport, justement. Vous, une retraite, ça vous intéresse pas. À la place, vous changez de sport. Donc, vous êtes maintenant au boccia. Pouvez-vous nous décrire le sport?
Ben, le boccia, c'est un sport de précision. Ça ressemble un peu à la pétanque, là, mais nous, on essaie d'apparenter ça plus un peu au curling puis aux échecs. Au curling, parce que c'est quand même c'est un élément de précision. Fait que nous, on lance une balle blanche sur le terrain, puis l'adversaire est soit en rouge ou en bleu, puis nous aussi, on est en rouge ou en bleu. Puis ensuite de ça, c'est de s'approcher le plus possible du cochonnet, de la balle blanche. Puis ensuite de ça, moi, j'apparente ça, comme je disais, aux échecs un peu, parce qu'il faut toujours penser comme 2-3 mouvements d'avance.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Ce qui rejoint le curling aussi, comme vous le mentionnez.
Oui, voilà.
C'est un sport qui se joue en équipe?
Ça se joue en individuel, puis aussi, dans notre cas, nous, c'est en paire. Fait qu'il y a comme... fait qu'en individuel, ben, c'est un contre un, puis en paire, ben, c'est 2 contre 2, puis on a le droit aussi d'avoir un substitut.
Est-ce que vous jouez, des deux manières? Avez-vous des compétitions à la fois en individuel et à la fois en paire? Vous l'avez mentionné, ce que vous avez gagné au défi sportif, c'était avec une autre joueuse.
Oui. Fait que ça dépend des compétitions. La plupart des compétitions, toujours la compétition en paire qui commence en premier, puis ensuite de ça, c'est la compétition individuelle. Comme aux Jeux paralympiques, il va y avoir la compétition en paire pour débuter. Puis ça, le Canada, on est classé 6e. Mais on est quand même une jeune équipe. Addison, ça fait pas tellement longtemps qu'elle joue. Fait que les espoirs sont vraiment tout permis là, pour Rio, même si on est 6e. Nos chances de podium sont excellentes. Puis en individuel aussi, ben écoute, moi je suis 5e mondial, puis Addison n'est pas trop loin derrière. Fait que nos chances de médaille aussi aux Paralympiques en individuel vont être bonnes, si je crois.
Vous savez depuis mai 2015 que vous serez aux Paralympiques cette année. Dans les compétitions que vous faites en fait depuis un an servent de préparation. Est-ce que ça sert à observer les autres athlètes? Comment est-ce que vous travaillez votre stratégie?
Ben écoute, observer les autres athlètes, là, comme tu vois actuellement, là, l'Asie commence à être très, très forte. Fait que c'est important. On les a vus récemment au championnat du monde individuel au mois de mars en Chine. Fait que parce qu'on n'a pas beaucoup la chance de les voir en action parce qu'ils se déplacent très rarement. Fait que ça a été une belle occasion pour nous de voir un peu ce qui était rendu leur jeu. Puis vraiment, là, ce qui depuis 2015, écoute, puis on fait l'envie un peu d'autres sports paralympiques. Eux, même certains sports qu'ils ne connaissent même pas encore, là, si, euh, si les athlètes individuels vont comme en natation, en athlétisme aussi, il y a des sports qui sont en attente encore. Fait que nous, on le sait au mois de mai 2015. Fait que ça nous donne amplement de temps là, pour nous préparer là, pour les Jeux paralympiques.
Mm-hmm. Justement, ce ne sont pas vos premiers Jeux. Vous avez entre autres participé à Athènes en 2004. Donc, vous en avez quelques-uns derrière la cravate. Comment est-ce que vous envisagez ces prochains Jeux qui s'en viennent?
T'sais, souvent, on se dit, ben, t'as fait tes premiers Paralympiques, les deuxièmes, bon, ce sera pas, tu ressentiras pas les mêmes papillons puis tout ça, mais les papillons sont toujours là. T'sais, quand t'arrives dans les cérémonies d'ouverture, t'as 80 000 personnes qui hurlent, t'as pas autre choix que d'avoir des papillons. Puis moi, ça, je me sens encore comme un enfant là, quand je suis à ces jeux-là.
Ça doit être effectivement très, très. Très intense, très spécial à vivre. On peut le décrire, mais donc il n'y a rien de comparable à justement défiler aux côtés d'autres athlètes de d'autres nations, de d'autres pays. Qu'est-ce qui vous a amené vers le boccia? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport?
Ça a été une lutte acharnée entre le coach puis moi, parce qu'en 2004, il m'a approché pour la première fois, mais moi, je venais du rugby en fauteuil roulant, qui est un sport très physique, puis très robuste, puis on est un peu macho, puis on se dit, bah, le boccia quand même, voyons donc, c'est pas un sport de contact, là, ce sera pas pour moi. Finalement, en 2010, ben, j'ai dit, ben, je vais fermer la gueule de mon entraîneur, puis je vais l'essayer, son sport, puis ça a été l'amour au premier lancé, ça a été vraiment extraordinaire, puis je me suis dit, hey Marco, pourquoi t'as pas commencé ça avant, mais écoute, je l'ai commencé en 2010, puis ça va super bien, puis...
Quels sont vos défis par rapport à ces autres sports plus physiques ou plus de contact que vous avez fait avant?
Ben moi, la plus grosse transition que j'ai eue au boccia, là, c'est de quand c'est l'adversaire de lancer, on ne peut pas parler. Puis mon rugby, ben j'étais notoire un peu, je parlais toujours, je parlais aux adversaires, je parlais aux arbitres. Puis des fois, c'était pas toujours gentil, là. Fait qu'au boccia, c'est vraiment de la fermer, puis de quand c'est autour de l'autre, c'est vraiment un sport là de. C'est un sport d'éthique, là, un peu comme le golf. Fait que. Il faut être vraiment, quand c'est aux autres de jouer, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait puis laisser le champ libre à l'adversaire.
Est-ce que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration?
Énormément. Puis moi, ce que j'adore du boccia, c'est un sport qui est très inclusif parce qu'on a des joueurs là, avec des handicaps hyper sévères qu'on s'imagine pas qu'ils sont capables de tirer des balles. Puis on a une autre division aussi pour des athlètes qui sont incapables de propulser une balle, qui jouent à quelle rampe. Au rugby puis même au tennis, t'as quand même, tu peux te reprendre souvent. Dans le cadre de 2-7 ou même de 3-7 au tennis, tu peux te reprendre. Mais au boccia, une mauvaise balle, ça pardonne pas. Fait qu'il faut vraiment chaque lancer fait au summum de sa concentration. Puis aussi, moi, je fais quelques parallèles, tu sais, un peu avec les sports de tir à l'arc, les sports de pistolet, il faut vraiment être capable de contrôler sa respiration pour être en mesure de se calmer le plus possible pour lancer des balles.
Mm-hmm. Vous le mentionnez, c'est un sport inclusif à la fois au niveau du handicap, mais c'est aussi un sport mixte et c'est plutôt rare dans les compétitions.
C'est rare, puis écoute, dans le boccia, avec le type de maladie qu'on a, tu sais, les femmes sont aussi avantagées physiquement que les hommes. Fait que souvent, on parle toujours de cette différence-là là, dans les autres sports. Pourquoi il n'y a pas personne, une femme qui joue au hockey professionnel? Mais au boccia, c'est vraiment inclusif parce que, comme Allison, physiquement, sur le circuit du boccia, c'est une des joueurs les plus fortes, peu importe le sexe. Fait que c'est vraiment un sport inclusif. Puis les femmes ont vraiment leur place au plus haut niveau, au même niveau que les hommes.
Marco Di Spaltro, vous êtes dans le parasport depuis longtemps. Est-ce que le grand public connaît mieux qu'avant les performances des athlètes? Est-ce que les médias couvrent davantage le parasport?
Mieux qu'avant, mais il y a toujours un élément de progression qu'il faut amener d'année en année. Fait qu'on espère vraiment qu'en 2016, là, qu'on va avoir une meilleure couverture. Puis aussi que les gens comprennent qu'on est des athlètes là à temps plein. Hein. Tu sais, moi, même si mon corps me permet pas de faire des poids et haltères, tu sais, je suis quand même sur le terrain de boccia 20 heures par semaine. Je fais de l'aérobie, je fais du vélo stationnaire. Fait que, tu sais, vraiment, c'est un job à temps plein. C'est 40 heures semaine. Puis ça serait le fun d'avoir souvent la même reconnaissance là, que les athlètes olympiques ou même les athlètes professionnels. Mm-hmm. Parce que vraiment, le sport amateur, on fait ça pour l'amour de la chose. Puis le sport amateur pour personnes handicapées, ben c'est encore plus ça parce qu'on a vraiment des commanditaires sur le compte-goutte, puis les reconnaissances publiques aussi, c'est pas pour ça qu'on est là-dedans. On est vraiment dans le sport pour l'amour du sport.
Mm-hmm. En terminant, Marco, qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici septembre 2016?
On a beaucoup d'entraînement. On est très choyé maintenant parce qu'on est à l'Institut national de sport du Québec. Fait que c'est un institut qui est extraordinaire. C'est à la fine pointe de la technologie. On côtoie des athlètes paralympiques, des athlètes olympiques, puis aussi les jeunes qui sont en devenir aussi là, dans les sports. Fait que c'est vraiment extraordinaire pour ça. Puis ensuite, on a le Portugal qui va être notre dernier tune-up, si on veut, là, avant les Paralympiques. Puis essentiellement, mais c'est beaucoup d'entraînement puis quelques tournois seuls là.
On vous souhaite vraiment la meilleure des chances pour Rio. Marco Dispaltro, joueur émérite de Boccia, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous. Merci.
C'est ce qui met fin à notre programme de la journée. Je remercie mes invités, Marco Dispaltro, Geneviève Genet et Martine Fontaine, Claire Lefebvre, Samuel Florent Beauchemin, avec qui on avait commencé l'émission. Je remercie mon équipe, mise en onde de Jean-Sébastien Laliberté, recherche et médias sociaux, Christiane Campagna. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.